9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Et tout de suite, c'est le journal présenté par Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. 4 millions de Soudanais ont fui leur pays depuis le début de la guerre en avril 2023. Nombre mis en avant ce matin par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés qui souligne une nouvelle fois l'urgence humanitaire créée par le conflit. 4 millions dont un quart environ sont au Tchad, l'est du Tchad, qui n'a aujourd'hui pas les moyens de les accueillir convenablement, nous expliquera un responsable du HCR. Dans ce journal également, la Centrafrique, 10 ans après la création de la Cour pénale spéciale chargée de juger les crimes les plus graves commis dans le pays. La Banque mondiale qui débloque des fonds pour financer des études en vue de nouveaux barrages hydroélectriques en République démocratique du Congo. Et puis les sports, début du Tour cycliste du Cameroun aujourd'hui. Journal des sports dans une dizaine de minutes avec Victor Missistrano. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés parle donc d'un jalon dévastateur dans la plus grave crise de déplacement de population au monde. Le HCR qui a compté 4 millions de Soudanais ayant fui leur pays depuis avril 2023, depuis le début de la guerre qui oppose le président de la transition, le général Al-Burhan, à la tête de l'armée nationale et son ex numéro 2, le général Emeti, chef des paramilitaires FSR. Un peu plus de 2 ans après le début de la guerre, donc où en est-on aujourd'hui? Où en sont les forces en présence? On fait le point avec Alexis Guilleux.
Plus de 2 ans de guerre et la ligne de front reste quasiment la même. Le pays est toujours coupé en deux. L'armée soudanaise, dont le commandement est toujours installé à Port-Soudan, contrôle l'est du pays ainsi que le sud-est, alors que les paramilitaires des forces de soutien rapide contrôlent tout l'ouest du pays, c'est-à-dire le Darfour et une partie du sud-ouest. Parmi les dernières avancées, l'armée soudanaise a réussi à reprendre il y a quelques mois le contrôle de l'état d'Al-Jazira, grenier à blé du pays, et surtout a repris en mars dernier le contrôle de la totalité de la capitale Khartoum. Cœur d'intenses combats depuis le début de la guerre et où aujourd'hui s'est répandue une épidémie de choléra. Depuis, les paramilitaires ont redirigé leur offensive sur l'ouest, sur la ville d'El Fasher, capitale du Darfour Nord, dernière grande ville de la région à être encore sous le contrôle de l'armée régulière. C'est désormais là que se concentre le conflit. Une guerre qui perdure, alimentée par le soutien matériel de puissances étrangères.
Et dernièrement, autour de la ville d'El Fasher, les forces de soutien rapide ont attaqué et pris le contrôle du gigantesque camp de déplacés de Zamzam. Une partie de ses occupants ont pris la direction du Tchad voisin. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, le HCR, affirme que ce sont en moyenne chaque jour 1400 personnes qui continuent de passer la frontière Soudan-Tchad. Et il est estimé que le Tchad accueille désormais plus de 800 000 Soudanais, mais sans vraiment avoir les moyens de le faire. Abri, eau, nourriture, soins, tout est extrêmement compliqué, explique Dossou Patrice Awansou, coordinateur du HCR pour l'Est du Tchad.
Pour les abris qui permettent déjà d'accorder une protection physique, nous arrivons seulement à répondre à 14% des besoins. Seulement 14% des besoins. L'eau, on arrive à fournir seulement 5 litres d'eau par jour, alors que les standards, c'est entre 15 et 20 litres. Donc 5 litres d'eau, vous voyez très bien qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Boire, se laver, cuisiner, c'est extrêmement compliqué. Autre chose, c'est que 14% d'enfants sont en situation de malnutrition. Et puis, on a quoi? Un centre de santé pour 110 000 personnes. Et malheureusement, à ce jour, on a encore près de 290 000 qui sont à la frontière à attendre d'être relocalisés. Il faut trouver la terre, il faut trouver les abris pour pouvoir leur donner un toit. Et il faut trouver des moyens aussi pour pouvoir transporter les gens. Donc, la logistique est aussi un grand défi. Puis la saison des pluies approche. Et c'est ça la plus grande inquiétude aujourd'hui. On risque d'être coupé sans accès physique, quoi, aux personnes qui sont en détresse.
Dossou Patrice Awansou, coordinateur du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés pour l'Est du Tchad. Et noté par ailleurs à propos du Soudan que le secrétaire général de l'ONU réclame une enquête urgente, dit-il, après l'attaque qui a visé lundi un convoi d'aide humanitaire destiné à la ville d'El Fasher. 5 membres de ce convoi du Programme Alimentaire Mondial et de l'UNICEF ont été tués. Les 2 camps belligérants se renvoient la responsabilité. RFI 8h34 à N'Djamena, où les avocats de Succès Masra estiment que l'audition d'hier s'est globalement bien déroulée. L'opposant tchadien, pour la première fois depuis son arrestation il y a 3 semaines, a été entendu sur le fond par un juge hier. L'ancien premier ministre Succès Masra, accusé d'incitation à la haine et à la révolte, soupçonné en fait d'avoir incité au massacre d'une quarantaine d'éleveurs par des cultivateurs à la mi-mai dans sa région natale du Logone occidental. Quel bilan en Centrafrique pour la Cour pénale spéciale CPS, qui est constituée de magistrats centrafricains et internationaux et qui est chargée de juger les crimes les plus graves commis dans le pays depuis 2003. 10 ans après sa création, en 2015, des premières enquêtes ont été lancées dans les années qui ont suivi. Et aujourd'hui, qu'en dit-on à Bangui ? Correspondance de Rolf-Steph Domielleux.
Considérée comme un symbole d'espoir en Centrafrique, la création de la Cour pénale spéciale répondait en 2015 à un appel en faveur de la lutte contre l'impunité dans le pays. 10 ans après, André-Michel Luanga, son président, présente les grandes réalisations de la CPS.
Nous avons déjà organisé 3 procès, dont le tout premier est arrivé à terme définitivement, où il y a eu même déjà des réparations. Les 2 autres, à savoir Ndélé 1 et Ndélé 2, sont presque bouclés.
Si 3 personnes ont été condamnées définitivement et 7 en première instance, des victimes remettent en cause l'efficacité de la Cour. Étienne Oumba est fondateur de l'association des victimes unies de Centrafrique AVUC.
Depuis 10 ans, les dossiers ne bougent pas. Cette juridiction ne juge que les petits soldats, mais les gros poissons sont en liberté. Ce que nous constatons, c'est que les activités de la CPS sont influencées par les autorités centrafricaines.
Des critiques que balaie André-Michel Luanga.
Depuis que je suis là, je n'ai jamais reçu des instructions ou du moins des pressions quelque part. Aucun juge ne s'est plaint de ce qu'il ne pouvait pas exercer son ministère parce que la pression ou qu'il n'était pas indépendant dans tout ce qu'il faisait comme activité ici.
Après le retrait des États-Unis, principaux contributeurs à hauteur $1 million chaque année, la CPS rencontre aujourd'hui des difficultés financières qui réduisent sa capacité d'action. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
En France, l'ONG Sherpa annonce se constituer partie civile dans la perspective d'un procès dans le volet gabonais de l'affaire dite des biens mal acquis. 15 ans après l'ouverture de l'affaire, le juge d'instruction a terminé ses investigations et c'est désormais au parquet national financier de dire qui des 11 mis en cause il souhaite voir jugé et pour quel chef d'accusation. Dans cette affaire, je vous le rappelle, où plusieurs membres de la famille de feu le président Omar Bongo sont soupçonnés d'avoir acquis avec l'argent de la corruption un important patrimoine immobilier. Et Sherpa donc choisit de se porter partie civile pour mettre en lumière le rôle des intermédiaires financiers, en particulier celui de la banque française BNP Paribas, explique Jean-Philippe Fogel, chargé de contentieux au sein de Sherpa.
Dans l'affaire en cause, on soupçonne que la banque a manqué à ses obligations de vigilance en ne vérifiant pas l'origine des fonds qui provenaient d'Atelier 74, une entreprise fictive créée par le clan Bongo pour blanchir l'argent issu de la corruption au Gabon sur le territoire français. La législation en matière de lutte anti-blanchiment doit être modifiée, d'autant plus que une nouvelle directive européenne a été adoptée en la matière. Donc ce sera l'occasion pour Sherpa de replacer sur le devant de la scène la nécessité pour les banques d'être plus vigilantes par rapport à l'origine des fonds qu'elles reçoivent et ça passe évidemment par une remise à niveau de la législation anti-blanchiment. Aujourd'hui, on a du blanchiment en matière de crypto-monnaie, on a une diversification des personnes qui aident au blanchiment de la corruption et évidemment Sherpa en profitera pour rappeler ses revendications en la matière.
Jean-Philippe Fogel de l'ONG Sherpa. Au Cameroun, un syndicat enseignant s'inquiète du silence des autorités alors que la semaine dernière, au début du baccalauréat général, un sujet de mathématiques et un autre d'anglais ont circulé sur les réseaux sociaux le matin de l'épreuve avec leurs corrigés. Depuis, pas de réaction officielle, que ce soit de la part de l'Office du baccalauréat du Cameroun ou du ministère de l'enseignement secondaire. C'est méprisant et révoltant, dit ce matin le CECA, syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique. Samori Touré Tengeng en est le secrétaire national.
Ils savent que s'ils réagissent pour confirmer la fraude, ils seront obligés de reprendre les épreuves. Or, ils sont déjà en train de dire qu'ils sont endettés vis-à-vis des enseignants depuis l'année dernière. Et donc, s'ils doivent reprendre les épreuves, cela signifie qu'il faut faire repartir les enseignants, surveiller et corriger et tout cela. Ça demande encore de l'argent supplémentaire. Le CK demande au gouvernement d'ouvrir une enquête pour établir les responsabilités et juger tous les coupables et puis que l'office du baccalauréat puisse reprendre les deux épreuves qui sont incriminées. Parce que vous savez, c'est pas normal que lorsque des candidats eux-mêmes savent qu'il y a une fuite de ces épreuves-là et que le gouvernement reste silencieux, c'est un peu comme une complicité et ça entache la qualité de leur diplôme. Ils voient qu'à côté d'eux, il y a des gens qui ne méritaient pas, qui ont réussi et c'est une grosse frustration.
Samori Touré Tengeng du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique. Enfin, en RDC, de nouveaux barrages hydroélectriques vont-ils voir le jour? Kinshasa qui souhaite passer de 20 à 60% d'électrification d'ici 2030 et qui vient de voir la Banque mondiale approuver le déblocage de nouveaux fonds, 250 millions de dollars pour financer notamment des études de faisabilité à propos du grand projet Inga, projet de barrage sur le fleuve Congo. Charlotte Cossé.
C'est un engagement de 10 ans de la Banque mondiale pour transformer le secteur énergétique congolais. Mais l'organisation ne perd pas de vue les communautés environnantes, estimées à 1 200 000 personnes. Thierno Bas, spécialiste du secteur énergétique.
Nous savons que les communautés locales ont souffert de la construction d'Inga 1 et 2, mais qu'elles n'en ont pas tiré les bénéfices. C'est pourquoi le premier objectif de ce programme est vraiment le développement dans les communautés locales, en leur fournissant de l'électricité durable, un approvisionnement en eau et une connectivité. Le deuxième objectif important est de stimuler la croissance et de créer des emplois. Enfin, c'est évidemment de développer les compétences des Congolais pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de ce programme.
Un exercice d'envergure inédit pour l'organisation, détaille Albert Zefak, le directeur de la Banque mondiale en RDC.
La Banque mondiale est extrêmement heureuse de déployer tous les instruments de son portefeuille. Un aspect important de ce programme, c'est l'approche unique du groupe de la Banque mondiale. La Banque mondiale, la SFI, l'IDA travaillent ensemble pour s'assurer que nous saisissons toutes les opportunités pour transformer l'économie. Le MIGA s'efforce de mettre des instruments de garantie à la disposition du secteur privé. C'est une approche très innovante que nous avons adoptée.
Pour concrétiser ce projet, la Banque mondiale travaille également avec les autorités sur la réforme de la Société nationale d'électricité et sur les questions de gouvernance.
À Kinshasa, il est maintenant 8h42. Vous êtes avec Andréane Mellard. C'est la suite d'RFI Matin.